perfekta barnen som hela sitt liv varit på jakt efter sitt egentliga ursprung.
Walter föddes under kriget, men inte så som andra barn.
On disait tiens ça c'est un allemand, c'est un jeune allemand, puis bon bah j'étais blond, blond blanc. J'étais quand même différent.
Et vous appelez comment les adultes?
Rat blanc.
Et quand les gosses disaient où il est ton père, où il est ta mère, qu'est-ce que vous disiez?
Je disais, il est parti.
Et ta mère?
Elle est partie avec.
Wir müssen einen neuen Menschen machen. Auch das unterfällt nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. Unseren Augen. Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.
Den 12 december 1945 inledde SS-chefen Heinrich Himmler ett av Tredje rikets mest vanvettiga projekt, Lebensborn. Syftet med Lebensborn var att producera ariska barn. Fäderna var utvalda SS-officerare, blåögda eller grönögda, med bred panna och minst 175 cm långa. Mödrarna var deras hustrur eller andra utvalda kvinnor, också de blonda, blåögda arier. De blivande föräldrarna måste kunna styrka sitt ariska ursprung åtminstone tillbaka till 1750. Lebensborn-barnen tillhörde den anstalt där de skulle fostras. De skulle utgöra den nya eliten i det tusenåriga riket. En ren och överlägsen ras som skulle behärska världen. De mindervärdiga, orena raserna måste bort. Himmler utbildade de som skulle odla fram den nya rasen. Han byggde 10 barnbördshus. Det första stod klart 1939 i Steinhöring i Bayern. Men kriget skördade allt fler liv och Tyskland behövde fler barn. Därför beordrade Himmler alla SS-officerare att skaffa sig minst 4 barn eller adoptera Lebensborn-barn mot ekonomisk ersättning. Många unga tyska kvinnor ställde upp som frivilliga för nazismens sak. De blev väl omhändertagna och fick betalt. Idag bor Walter Bossert i en liten by i trakten av Meuse i nordöstra Frankrike. Han har papper på att han är 50 år gammal och av fransk nationalitet. Men i själva verket vet han nästan ingenting om sitt ursprung. Han och hans hustru Nadine har förgäves försökt pussla ihop de allra första åren av hans liv.
Non, pas Milena.
C'est Lina.
Là, Milena, c'est pas mal, tiens.
Me retrouvant seul, il faut se jurer de créer quelque chose. Il y en a qui créent avec leurs mains, avec leur esprit également. Moi, j'avais un peu de mes mains, un peu de mon esprit. Je me suis dit, il faut que je crée ma famille.
Bon, j'ai toujours senti qu'il lui fallait quelque chose. Et quelque chose de solide. Sinon, il n'était pas debout. Ça a été comme ça dès le départ, hein. Dès que je l'ai connu. Hein.
Ça vous a pas empêché de l'aimer?
Non. Je crois que ça aurait changé quelque chose. Hein. On se marie avec le présent, pas avec le passé.
Et est-ce que ça vous a un jour gêné de ne pas avoir de grands-parents, de pas savoir?
Non. Non, c'est pas ça.
Enfin, t'as posé quelques questions.
Non, j'ai posé des questions, c'est évident. Quand on se fait traiter de sale boche, on se pose des questions. Mais ceci dit, il y avait beaucoup de personnes âgées autour de nous, donc ça compensait aussi beaucoup. Hein.
Et si vous appreniez que votre grand-père est un criminel de guerre nazi?
Là, je sais pas. Non, je sais pas.
Ça vous fait mal?
Ouais.
Enligt pappren från det statliga franska barnhem som tog hand om Walter var han 3 år när han kom till Frankrike. Men varför heter han Bossard i efternamn och Walter i förnamn? Det förmodades att han var ett föräldralöst krigsbarn. Han placerades först i ett fosterhem. Vid 12 års ålder kom han till ett barnhem i Saint-Pigny-sur-Meuse. Han var ett problembarn och sattes på uppfostringsanstalt i norra Frankrike där han fick lära sig elektromekanik.
C'est quel monseigneur ça? Qui demandait ça?
L'Allier.
L'Allier. Et ça t'est fait à quelle date ça alors? À 21 ans, la majorité, on m'avait refusé tout document me concernant sur mes origines et tout ça. Alors avec Nadine, on a recherché à droite à gauche, par voie de tribunal bien sûr. Bon là, ça a été aussi l'arrêt complet, on nous a fait comprendre que non.
Il fallait pas continuer avec des médicaments donnés.
1990 kom en lag som ger barn och omhändertagna på statliga barnhem möjlighet att få se sina papper. Det blev en chock för Walter. Han upptäckte att han inte är ett föräldralöst krigsbarn utan ett Lebensborn barn.
Nous ont convoqué, on a été. Et puis on a vu tout. Enfin, on suppose que c'est tout. Et puis à la fin du dossier, il y avait une grande enveloppe comme ça, verte, vert armé. Et puis dedans, il y avait ces papiers-là.
Croyez-moi, quand vous ouvrez un dossier et que vous voyez votre nom, plus ou moins écrit en lettres gothiques, tout ça, et en plus de ça, ces mots-là, ça vous... C'est comme si vous receviez un coup de poing à la figure, c'est pareil. Ça vous fait froid dans le dos.
Et pas tellement d'autres explications. Pas de source du père, pas de source de la mère, rien. Né le 1er janvier 44, Steinering, point final. Et là, ça fait drôle. Bon, c'est là qu'on se dit, il faut continuer, on ne peut pas rester là.
I de officiella papperna läste han också att han fördes från Lebensbornanstalten i Steinering av amerikanerna år 1945. Då var han en sjuklig 20 månaders baby som led av svåra blödningar i vänster öga.
Après ma libération de Steinering, fin avril 45, on a été pris en main par les services médicaux américains. On était dans un état déplorable, point de vue physique, enfin santé et tout ça. Le camp n'a pas été évacué tout de suite, dans le sens où il a fallu nous remettre en état.
Bon, moi, on m'a soigné pour la dysenterie, les problèmes de sang, manque de plaquettes et tout ça. Le poids, parce que je faisais à peine 8 kilos. Ensuite, je suis arrivé en France fin 46 et j'étais regroupé à Strasbourg. On était identifiable par des numéros qu'on portait, des numéros sanitaires, comme c'était un train de la Croix-Rouge. Et de Strasbourg, je suis arrivé à Commercy.
Vous avez été soigné ici, dans cet hôpital?
Oui, j'ai été soigné à cet hôpital, ici.
On devait faire des enfants parfaits?
En théorie, oui. Mais chaque enfant peut avoir certains problèmes. Et puis en plus de ça, qui sait ce que je serais devenu si ça avait continué? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces foyers, on faisait de la sélection. La sélection raciale pour la race aryenne. Et en plus de ça, il y avait de la recherche médicale, entre guillemets. Ça n'a pas été beaucoup raconté jusqu'à maintenant, mais enfin, c'était comme ça. Et l'euthanasie pure et simple.
Lebensborn-läkarna hade order om att göra allt för att rädda ariska barn till livet. Men Lebensborn-barn som föddes handikappade eller ansågs obotligt sjuka skickades i hemlighet på order från regeringen till doktor Heinze. Heinze var lobotomist, specialist på hjärnkirurgi. Han hade 2 veckor på sig att utföra sina experiment. Sen dödade han barnen. Det kallades eutanasi, barmhärtighetsmord. Walter beslutar sig för att ta reda på mer om Lebensborn. Vem är han? Var kommer han ifrån? Enligt de franska myndigheternas papper tycks han ha tagits om hand av en fransk familj utanför Paris innan han skickades till Tyskland, där amerikanerna hittade honom. La Morlaix var den enda Lebensborn-kliniken i Frankrike. Den invigdes av Himmler själv i början av 1944 och var till för SS-eliten i det ockuperade Frankrike. Alla mödrarna i La Morlaix var fransyskor. De fick behålla sina barn i 6 månader, sen måste de överlämna dem till anstalten. Därifrån skickades barnen till den centrala institutionen Steinhöring för att adopteras av SS-familjer.
On a découvert dans mes recherches des documents parlant d'un passage vers la France, qui veut dire un foyer se trouvant en France. Par déduction, on peut supposer que c'est la Morlaix. Mais ça ne me donne pas de... Non, je ne vois pas, je n'ai pas de souvenir. Ça ne me choque pas, premièrement. Et puis en plus de ça, le cadre ne me dit absolument rien.
Den 10 augusti 1944, mitt under Tysklands sammanbrott, kom ett telegram med order om att de sista kvarvarande 10 barnen på den franska Lebensborn-anstalten skulle evakueras. De skickades till Steinhöring. Där hoppas Walter få klarhet.
Ben, vi à certains moments, c'est un point d'interrogation. Donc je vais enlever ce point d'interrogation. Et dire à mes enfants par la suite, vous voyez, vous avez de mon côté une grand-mère, un grand-père.
C'est uniquement pour ça?
Non, puis je voudrais voir au moins, si c'est possible, soit une photo ou le visage, je sais pas. C'est très difficile à dire.
De qui?
De ma mère en particulier.
Första anhalten på Walters resa till Tyskland. Steinhöring i Bayern. Walter träffade den 87-årige baronen Otto von Feury, vars ägor gränsade till Lebensborn-anstalten.
Ah ouais. Je savais ce que c'était quand même. Mais je ne pensais pas, moi, avoir passé par ce fameux système. Le but de ma visite, c'est pour vous demander comment vous avez découvert le foyer à Steinering et me décrire un peu ce que c'était quand vous êtes rentré pour la première fois.
Die Männer waren meistens SS-Leute. Die SS-Leute kamen, um ihre Frauen zu besuchen, konnten auch eine Zeit unten bei ihnen sein, aber gingen immer wieder weiter weg. In den ersten Tagen vom Mai kamen die Amerikaner. Es kam dann dort eine Frau mit weißen Fahne und es hat sich herausgestellt, dass kein SS-Mann, aber auch wirklich kein männliches Person in diesem Lebensbornheim noch war, sondern dass der ganze SS, die drunten war, geflohen war über den Inn und alle, aber auch alle Lebensmittel und was sie handhaben konnten, mitgenommen haben. Unten waren, als die Amerikaner gekommen sind, die Mütter, die Schwestern und die Kinder. Sonst nichts. Der Pfarrer ging jetzt heim, sah das, dass nichts zu essen da war und nichts und telefonierte mich an und sagte, Herr Baron, Sie müssen helfen. Dann bin ich vom Bauernhof zu Bauernhof gefahren mit meinen Milchkübel, die ich gehabt habe von meiner Landwirtschaft. Da haben wir Milch und Brot bekommen und da haben wir angefangen, die Leute da unten zu ernähren. Steinhöring war dann der letzte Platz, wo dann, ich glaube, so ungefähr 250 bis 300 Leute waren. Das Heim war überfüllt bis zum Letzten. Die Betten wurden dann aufgestellt am Gang und überall und da waren die dort.
Vous pouvez me dire s'il y avait vraiment des Françaises?
Ich glaube, sie kamen aus all den Ländern und insbesondere auch aus dem ganzen Deutschen Reich damals, wo eben diese Lebensbornheime früher waren und aufgelöst worden sind. Sind natürlich aus diesen Lebensbornheimen Frauen in den anderen Orten raus und wollten wahrscheinlich auch in der Zeit nichts mehr mit dem Lebensbornheim zu tun haben, aber die Leute, die also insbesondere auch schwanger waren oder gerade Kinder bekommen haben und von der SS eben noch angetan waren bis zum Schluss, die blieben da unten.
Mais vous entendiez parler français quand même.
Oui, peut-être on m'a cherché pour parler avec quelqu'un français, ça peut être, mais je suis plus sûr.
C'était une dame.
C'était une dame, oui, oui. Ouais. Une dame, oui. Mais il y avait plus des hommes, il n'y avait plus des hommes.
C'était une maman d'un enfant qui était
là. Oui, maman, alors, oui. Ouais. Votre maman était là,
bien sûr. Peut-être.
Peut-être, on ne sait pas. Alors. Mais, ça
mais vous n'avez pas fait de photos à l'époque
Non, je n'avais pas fait de photos, rien. Je n'avais pas de photos et... Non.
Alla Lebensbornanstalter förde mycket noggranna hemliga anteckningar om mödrarnas namn och de barn som föddes där eller kom dit för att adopteras bort. Efter Tysklands sammanbrott beordrade ledningen för Lebensborn-projektet att alla dokument skulle förstöras. Men en förteckning över de 1409 barn som föddes i Steinhöring har bevarats.
Sie haben in Steinhöring mal gewohnt. Ja.
Här hittar Walter sitt namn.
Was ist Ihr Name?
C'est déjà un moment de mon existence que, bon, je sais que j'étais là 4 mois. Ça commence à combler les 18 mois d'absence que j'ai sur pas mal de documents, quoi.
Et le fait qu'il n'y ait aucune trace de la mère, est-ce que ça vous paraît être une volonté? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que si la mère a abandonné son enfant ou elle l'a donné au Führer, comme ça se disait à l'époque... À mon avis, ils enlèvent toute trace de façon à ce que je ne retrouve pas ma mère, quoi. Ils ont prévu pour longtemps après.
Det föddes över 90 000 Lebensborn-barn. Walter är en av de många som inte vet någonting om sina föräldrar. Andra vet allt om sitt ursprung. Olaf till exempel är son till en SS-man. Hans mor var nazist.
Et tu te souviens des autres temps dans les autres places après Stenhuring?
Après Stenhuring, non, vaguement.
Non.
Je vois une maison. J'étais dans une pièce, moi, avec une maison plus ou moins bombardée, avec une petite gosse blonde. Mais ça va rien, c'est. Alors ça, c'est la fameuse statue.
Ah bon. C'est typiquement du temps des nazis. Est-ce que nous sommes sûrs que nous deux, ou les autres qui sont nés ou qui ont habité ici, que nous sommes ce type que ce système a voulu, nous sommes un témoin, c'est juste. Mais un jour, c'est seulement un petit point dans l'histoire, je suis sûr. Hein? C'est une idée fixe, comme les autres idées fixes. Mein Vater war bei der SS, war SS-Offizier. Meine Mutter war sowohl politisch engagiert und sie war auch beruflich mit den damaligen Machthabern sehr eng verbunden. Meine Mutter arbeitete in der Gauleitung in Straßburg und war so eine Art Verbindungsoffizier zur Wehrmacht. Und schon allein aus politischen Gründen, weil sie eben, sagen wir mal, zu dieser, damals hat man es als Elite bezeichnet, gehörte. Deswegen war das ganz klar, dass sie die bestmögliche Versorgung hat. Denn in keinen Kliniken damals in der Kriegszeit war eine so gute Versorgung gewährleistet, wie in Stenhuring. Und außerdem war mein Vater SS-Offizier, dann war das Ganze automatisch, dass natürlich ich im Lebensbornheim zur Welt gekommen bin. Die SS hat dieses Zeichen verwendet im Lebensborn und es war auch auf den Geburtsurkunden, das heißt diesen offiziellen Namensgebungsurkunden, war dieses Zeichen obendran. Es ist in dieser Form mit den Zweigen nach oben die Rune des Lebens. Es ist eine germanische Rune, ja, und ist die Rune für das Leben, für das erwachende Leben. Und so umgekehrt ist es das Zeichen für den Tod.
Et pourquoi votre mère le possédait? Pour quelle raison?
Meine Mutter hat sich das machen lassen von einem Elfenbeinschnitzer, als ich geboren wurde. Und hat das dann getragen an ihrem, hat sich extra auch ein Kleid machen lassen und hat dann das getragen, vielleicht aus Freude, dass ich geboren wurde. Es war damals durchaus üblich, insbesondere in der SS und auch im Lebensborn, dass man vor allen Dingen nicht christlich betonte Namen auswählt. Es war natürlich diese nordische Ideologie, dann hat man eben nordische, skandinavische Vornamen genommen. Naja, und dann hatte sich angeboten, dieses Olaf, übersetzt Sohn Odins, also der Hauptgott der germanischen Mythologie. Und deswegen habe ich diesen Namen bekommen. 21 Tage nach meiner Geburt wurde eine sogenannte Namensgebungsfeier veranstaltet. Es war der 30. Januar und natürlich war das nicht Zufall, dieser 30. Januar, sondern es wurde ganz bewusst auf diesen Tag gelegt, weil es der Tag der Machtergreifung Hitlers gewesen war. Also auch ein symbolischer Akt. Bei dieser Namensgebungsweihe, das war so eine pseudoreligiöse Geschichte, da bekam man zunächst einmal den Namen und dann eine große Urkunde, wo dieses Zeichen drauf ist. Und außerdem der Pate hat dann einen Dolch, einen Ehren-SS-Dolch in die Wiege gelegt.
Med Lebensborn-projektet ville Himmler återuppväcka gamla germanska seder och riter. Han letade upp ett sägenomspunnet slott där den framtida eliten skulle sitta och regera Europa. Det var den medeltida borgen Wewelsburg. Här skulle hela den germanska världen ha sitt högsäte. Härifrån skulle den ariska läran spridas. Väggar och golv är täckta med fornnordiska och ariska symboler. Här finns 16 000 böcker och pergamentrullar om keltiska, germanska och indogermanska religioner till forskarnas tjänst. Lebensborn disponerade största delen av borgen. Här ville en av de högsta inom SS, prins Josias, att 300 flickor av rent ariskt blod skulle bo. Den härskande rasens blivande anmödrar.
Als ich ganz klein war, hat mir meine Mutter wohl erzählt, dass ich zu einer bestimmten Elite gehört. Zumindest, dass es etwas Besonderes war, im Lebensbornheim groß zu werden. Dass es nur ganz wenige sind, die dort geboren wurden in diesen Heimen. Also eine ganz kleine verschwindende Minderheit. Und dass das eigentlich hätte die Elite werden sollen, die politische und die Verwaltungselite für den kommenden Staat, auch die militärische Elite. Meine Mutter war Antisemitin und hat die große Linie des Dritten Reiches mit Sicherheit vertreten. Sie hat auch lange nach dem Krieg ihre antijüdische Haltung beibehalten. Wir haben sehr viele Streitigkeiten deswegen gehabt. Und die Rolle ihrer Kameraden, ihrer Freunde, die alle aus der SS kamen, auch die Rolle in der Reichskristallnacht beispielsweise, in der manche der Opfer an Herzschlag gestorben sind, wie in SS-Kreisen das spöttisch formuliert wurde, das hat mir meine Mutter erzählt.
För första gången sedan andra världskrigets slut har en fotograf fått tillträde till det allra heligaste i Wewelsburg. I den här salen höll riddarna av Svarta Orden, de 12 stormästarna i SS, sina hemliga möten. Här skulle den rena rasens ledare vigas till den sista vilan i de germanska krigarnas paradis, Valhall. Avgjordes Olafs öde. I Tyskland fick Walter veta att han är född i Belgien. Och alltså beger han sig till Vergimont utanför Liège. ...1942 inrättades en Lebensbornanstalt i Ardennerna för ariska kvinnor och barn från Holland, Belgien och Nordfrankrike.
Exactement à quelle année alors?
Moi je suppose qu'il a commencé fin 40, début 41.
Oui. Et vous savez à peu près le nombre de femmes qui ont venu accoucher?
Ah ça, on ne saurait pas dire. C'était vraiment le masqué par l'administration allemande, de telle manière qu'on ne sache pas suivre les enfants qu'on voulait retenir.
Oui, d'accord, oui.
Pour cette cause que vous
Et
connaissez.
La population belge des environs le savait?
Ah oui. Oui. Savait qu'il y avait des naissances, mais ne savait pas dans quel but,
oui.
Exactement. Parce qu'il y a eu ici des habitants de Soumagne, des Soumagnards, qui ont travaillé ici.
Ah oui.
Qui ont travaillé pour, à la layette, ou soit des enfants, etc.
Oui, d'accord, oui.
Il y a même des sages-femmes qui ont opéré ici, pour le compte du Lebensborn.
Et le nombre d'enfants exactement,
c'est pas, pas non plus. On sait, enfin, il faudra demander confirmation à notre bourgmestre, où il y a eu vraiment des inscriptions à l'état civil. Mais ce n'est pas du tout le nombre réel. Ça a été masqué parce qu'il y avait des femmes qui abandonnaient leurs enfants pour les laisser aux mains de l'administration nazie. Vous savez, vous connaissez l'organisation allemande, systématiquement, toutes les pièces administratives ont été vraiment rapatriées dans des malles, des choses comme ça. On n'a trouvé qu'une chose, et c'est assez macabre, ce sont des petits cercueils qui étaient tout prêts en cas de décès. On a retrouvé dans les greniers, c'est des ouvriers de la province qui m'en ont parlé. Ils ont trouvé ça dans les greniers. Ils avaient tout prévu, même ce cas malheureux d'un mort-né ou d'un enfant-né.
Et que faisaient-ils alors avec ces corps? Ils étaient rapatriés sur l'Allemagne
ou bien alors enterrés ici dans le cimetière le plus proche. Mais est-ce qu'ils ont été enregistrés? Là, je n'en sais rien.
Je vais vous montrer maintenant l'endroit où vous auriez dû être né. Oui. Donc ça se situerait dans ces chambres qui se trouvent ici au-dessus de notre hall de réception.
Vous avez ici à cet étage, vous avez une douzaine de chambres, et dans ces chambres, il est vraisemblable que vous avez été couché pour la première fois.
När de allierade befriade Belgien i början av 1944 utbröt panik bland tyskarna. Från Lebensbornanstalten i Vergimont skickades i all hast 20 barn med lastbil till Steinhöring i Bayern, där amerikanerna hittade Walter 1945. Var han med på den sista konvojen till Tyskland?
Bon, le site est grandiose. Quand on rentre, on se sent écrasé par tout cet ensemble et en parcourant tous ces lieux, je me dis, tiens, peut-être que ma mère m'a promené dans ces allées, là, dans cette cour. Et arrivé au moment où abandonner son enfance, c'est là que je ne comprends pas.
Trots hemlighetsmakeriet kring Lebensborn lät ett antal utländska mödrar registrera sina barn på stadshuset i Sommerge. De visste att barnen skulle tas ifrån dem och skickas till Tyskland för att adopteras bort. Men de ville inte låta det ske spårlöst. Walter hoppas att han ska hitta sitt namn och framförallt sin mors namn i böckerna.
Donc voilà les registres d'état civil des nœuds. 43. Quel est votre nom?
Bosser, ça commence par un bien.
Bon, le premier. Vous avez déjà eu besoin d'extrait d'acte de naissance.
Oui, mais moi je suis citoyen français maintenant.
Oui. Et quand vous aviez besoin d'un acte de naissance, où le demandiez-vous?
On m'a établi un lieu de naissance en France.
Ah, voilà.
Voilà. Là, c'est par recherche que j'ai réussi à retrouver que j'étais né ici. Non, parce que je suis
Et votre prénom, c'est comment?
Walter.
Walter. Toujours regardé. Pour les dates qui correspondraient à quelque chose. Ah, voilà. Oui, Willem. Ah, non, c'est une fille.
C'est une fille également. Oui. Et c'est celle qui était en premier.
Ah, oui. Et donc, concernant les dates, je ne vois rien, malheureusement. Normalement, voyez-vous, vous étiez le premier, vous auriez dû être là.
Oui, déjà commencé.
Oui. Il n'y a pas eu un changement de nom patronymique entre-temps.
C'est là le problème, je pense que non, mais enfin...
Vous mettiez de gros espoirs dans la consultation.
Oui, surtout en sachant que j'étais né dans ce château. Je dis, bon, il y a...
Pas de doute, je vais trouver les documents me concernant, mais en fin de compte, je m'aperçois qu'il faut toujours rechercher parce que la solution, je ne la trouve pas. Et tout en étant persuadé que je suis né ici. Et ça...
Polen invaderades i gryningen den 1 september 1939. Himmler ansåg att det föddes för få ariska barn i Tyskland. Han ville spåra upp alla rent ariska barn i Polen och förklarade: vi måste hjälpa dem bort från deras omgivning och föra dem hit om vi så ska tvingas hämta dem med våld eller kidnappa dem. Det bildades kidnapparpatruller som assisterades av experter på fysionomi, oftast kvinnor. De fick ta hand om de blåögda, blonda polska barn som med våld släpades iväg till Tyskland. Lebensborn-projektets så kallade läkare undersökte dem och mätte skallen på dem för att se att de verkligen var arier. De polska småflickor som bedömdes vara ariska skickades till Lebensbornanstalter. De fick tyska namn och eftersom de skulle bli barnaföderskor så fick de hormonsprutor för att påskynda könsmognaden. Helena Lanig var en av de sista som kidnappades. 48 år efteråt återvänder hon till Lebensbornanstalten i Aschern.
Mit 11,5. Ich war in einem Waisenhaus. Und dann hat an einem Morgen die Leiterin gesagt, die SS kommt hierher. Und wir müssen alle da sein. Sie wissen, wie viele das im Waisenhaus sind. Wenn eins fehlt, kommen wir gleich alle ins KZ. Und dann sind sie gekommen. Da mussten wir in einer Reihe stehen. Und zu dritt waren sie. Und dann haben sie zwei oder drei rausgesucht. Unter denen war ich.
Pourquoi, à votre avis, vous ont-ils choisi?
Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme an, weil ich blond war. Den anderen Tag mussten wir aufs Gesundheitsamt. Und dann hat man uns Kopf vermessen und alles halt untersucht. Fünf Mädchen und zwei Buben haben sie rausgesucht. Und dann haben sie gesagt, die fünf Stück fahren morgen nach Aachen-Baden. Wir als Polenkinder haben nicht gewusst, was das heißt, Aachen-Baden. Hier in Aachen, Unterricht, Appell und so ist der Tagesablauf gewesen. Ins Gesicht gespuckt, ins Gesicht geschlagen und so weiter und so fort. Das war das Übliche.
Clara Kleist war föreståndare för Aschernanstalten. Hon blev medlem av nazistpartiet 1937. Hon skulle fostra de kidnappade polska och östeuropeiska flickorna till goda tyskor.
Est-ce que vous saviez que ces jeunes filles polonaises avaient été kidnappées, arrachées à leurs parents en Pologne?
Ich habe gewusst, oder man hat mir geschrieben, dass sie aus einem Waisenhaus kommen und dass sie in dem Waisenhaus ausgesucht worden sind. Sie waren also sagen wir mal, waren keine Zigeunerinnen und so weiter, sondern sie haben meistens blaue Augen gehabt, blonde Haare, so wie das damals da bei denen war. Aber man hat eben so viele Menschen Verlust gehabt, dass man dankbar war für jeden Menschen, der wieder da, der da war, nicht wahr?
Est-ce que vous étiez membre du Parti nazi?
Ja, ziemlich spät bin ich es geworden. Anfänglich war ich es nicht, nicht wahr?
Est-ce que vous apparteniez à l'ordre de la SS?
Mit denen, nein, die, es gab Lehrer, die dort waren, aber ich habe mit der SS an für sich gar nichts, überhaupt nichts zu tun gehabt, nicht wahr?
On a dit que des médecins du Reich donnaient des piqûres d'hormones aux jeunes filles pour qu'elles deviennent plus vite femmes, pour pouvoir justement servir de reproductrice. Est-ce que vous êtes au courant de ça et est-ce qu'on vous en a fait?
Spritze habe ich bekommen, aber was es für waren, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das habe ich auch bekommen, aber das weiß ich nicht. Darüber kann ich nicht viel reden.
Et vos camarades aussi en ont reçu?
Zum Teil sagen sie auch ja.
Davon habe ich weder etwas gewusst, noch etwas gehört. Und es ist auch nicht gemacht worden. Was vorher mit ihnen in Polen gemacht worden ist, nicht? Die waren ja schon in Polen in extra ausgesucht und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich habe gar keine Unterlagen von den Polenkindern. Die haben mich nämlich eigentlich gar nicht interessiert.
Helena återvände aldrig till Polen och fick aldrig återse sin familj. Idag bor hon utanför Aschen, inte långt från Lebensbornanstalten. Den 24 april 1940 marscherade Tredje rikets soldater in i Norge. Himmler ansåg att detta nordiska land, obefläckat av främmande erövrare, var bättre lämpat än Polen att bli det nya herrefolkets vagga. Den första norska Lebensbornanstalten togs i bruk mot slutet av 1942. Kort därefter invigdes ytterligare 9. Där fanns hälsovårdscentraler och där planerades daghem för utomäktenskapliga barn som hade tyska fäder. 9000 Lebensbornbarn föddes i Norge. Varje dag skickades 200 kvinnor och 190 barn till Tyskland.